Bruno Cavalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Odo et compagnie. On va parler avec vous eh bien, de perspectives économiques. Comment vous vous abordez? On n'est pas tout à fait à la mi-année, hein, mais pas loin. Il y a eu pas mal d'actualités forcément du côté des banques centrales. Quel est un peu le regard que vous avez sur l'économie mondiale? Est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'elle est en point d'interrogation sur justement sa solidité?
Alors il y a une remarque qu'on peut faire et qu'on n'a pas faite depuis longtemps à propos de l'économie mondiale, c'est que la bonne surprise c'est l'Europe. Début d'année, la bonne surprise c'est l'Europe, alors qu'on a eu plutôt des déceptions ailleurs dans le monde, en particulier en Chine, où il semble bien que le ralentissement se poursuive et sans doute à un rythme un petit peu plus fort que ce que souhaiteraient les autorités. Et puis l'autre mauvaise surprise, c'est les États-Unis. Mais là, ça ouvre une question, c'est-à-dire est-ce que finalement la situation américaine, la croissance américaine en tout cas, est bien mesurée? Parce que d'un côté, on n'a pas encore le chiffre définitif pour le premier trimestre, mais très vraisemblablement, on va nous dire contraction de l'activité, et en même temps, l'économie américaine se rapproche du plein emploi. Donc la vérité est où? C'est une question quand même très importante pour les politiques monétaires. Si je reviens à la bonne surprise, c'est l'Europe, la zone euro en particulier, qui a affiché une croissance assez robuste pour les standards européens, et puis surtout en comparaison de ce qu'on a connu ces dernières années. Un point qui me paraît très intéressant, c'est que pour la première fois depuis, je crois, 2010, on a de la croissance dans tous les grands pays de la zone euro, Allemagne, France, Italie, Espagne, alors que d'habitude, il y avait toujours un ou deux de ces pays qui étaient en positif et les autres en négatif. Et je pense que ça, c'est un point très, très, très intéressant dans la situation actuelle, de mettre en avant cette reprise européenne. Moi, je pense que le meilleur est devant nous.
Est-ce que c'est lié davantage à ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, ce qui est parfois ce qu'on peut lire parfois en disant que ce fameux quantitative easing a joué un rôle important, ou est-ce que c'est lié à un certain nombre de mesures qui ont été prises par les États? Quel est un peu le cœur de cette meilleure forme européenne?
Alors, il y a une combinaison de facteurs. D'une part, bon, rappelons que au cours des années, on a fait des ajustements qui ne sont plus à faire, en particulier du point de vue budgétaire. Ce qui signifie que là où on a vécu en 2012, en 2013, en 2014, avec beaucoup de resserrements sur les contraintes des politiques budgétaires, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc ça libère, j'ose dire, des énergies. Par ailleurs, il y a la politique monétaire, vous l'avez rappelé, qui a été assouplie et qui, je veux dire, au-delà la baisse des taux, au-delà des politiques d'achat d'actifs, je crois que ce qu'a réussi la Banque Centrale Européenne, c'est à changer l'état d'esprit. Souvenez-vous que l'an dernier, on a passé, peut-être pas toute l'année, mais une bonne partie de l'année à débattre du risque de déflation, du risque de japonisation, du risque de rechute dans une troisième récession en Europe. Je crois que cette thématique est plus du tout présente, enfin en tout cas elle l'est beaucoup moins, et ce qui est venu l'emporter, c'est plutôt la reflation. La reflation parce qu'on a changé le régime sur les prix pétroliers, la reflation parce qu'on a une banque centrale qui est extrêmement agressive. Et puis par ailleurs, pour couronner le tout, il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de chocs externes qui, pour une fois, étaient positifs, donc entre le pétrole, le change. Donc c'est cette combinaison de tout ça qui, je crois, a remis un peu de tonus dans la croissance européenne. Mais le point très intéressant, c'est « et demain ?». Si, par exemple, bien, le pétrole a un peu remonté, l'euro un peu corrigé de sa baisse, est-ce que tout va s'arrêter? Moi, je ne crois pas, parce que ce qu'on voit aussi en Europe se dessiner, c'est une reprise du crédit. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faudra concentrer notre attention dans les prochains mois.
Est-ce que, parce qu'il y a un sujet qui reste pour l'Europe, c'est la Grèce, bien entendu. On voit des déclarations du chef du FMI sur ce sujet-là, en disant que finalement, l'Europe peut gérer cette crise grecque. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas minoré, justement, ce sujet grec? Parce qu'on parlait de psychologie, on dit, oui, ça va mieux en Europe, il y a peut-être une meilleure ambiance, plus positive. Mais les investisseurs, par exemple, on le sait très bien, peuvent à un moment donné paniquer.
Oui et non, parce qu'en même temps, la Grèce fabrique beaucoup de bruit. Elle fabrique beaucoup de bruit, mais presque que du bruit. Et je pense que si on veut analyser, effectivement, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a un risque de contagion finalement, hein, si demain, et ça peut être effectivement, c'est pas une façon de parler, si demain ils font défaut, on va se poser la question de leur maintien dans la zone euro, ça peut ressusciter un certain nombre de débats qui avaient été posés en 2012. Mais alors comparons la situation de 2012 avec celle d'aujourd'hui. Regardons comment ont évolué les canaux de transmission, les canaux de contagion qui pouvaient existait à l'époque. Bah, il y avait le canal des banques, du secteur financier exposé sur la Grèce. Ça, c'est complètement terminé. Par la force des choses, du fait du haircut de 2012, les expositions sur la Grèce sont limitées à des mains publiques qui ne seront pas mises par terre, le FMI, la Banque Centrale Européenne, les États européens, parce que la Grèce ne rembourse pas. Je ne dis pas que ce ne serait pas un problème politique et même un problème financier. Je veux dire, de ce point de vue-là, la contagion est à peu près nul. Deuxième risque de contagion, on se souvient en 2012, la logique était la suivante, si jamais un pays comme la Grèce doit sortir, est expulsé ou fait le choix de partir de la zone euro, on regardera qui lui ressemble et on fera la même, un peu la théorie des dominos, la Grèce, puis ensuite ça sera Chypre, puis ensuite le Portugal, l'Espagne, l'Italie, et au bout du compte, il n'y a plus de zone euro. Bon. On sait que ce risque, en large partie grâce à l'intervention d'abord orale et puis l'intervention, la BCE avec une nouvelle, de vos outils monétaires, disparaît. La Grèce peut-être sortir de la zone euro, mais personne ne s'amusera, je crois, sérieusement, à challenger la participation de l'Italie ou l'Espagne. Et enfin, il y a un dernier risque de contagion, la politique. Est-ce qu'on pense... D'abord, la Grèce n'est plus un sujet de division entre Européens, c'est même tout le contraire. La seule réalisation de M. Tsipras et de son gouvernement, c'est d'avoir fabriqué une cohésion incroyable qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps en zone euro. Et est-ce qu'on croit vraiment que l'expérience Syriza donne envie de faire la même chose ailleurs? Par exemple, en Espagne, c'est une question qui se pose aujourd'hui, les élections en Espagne en fin d'année. On pense vraiment que c'est une bonne publicité pour des partis de gauche radicales? Je crois pas.
Donc, on verra effectivement comment ça se passe de ce côté-ci. Si on revient aux États-Unis, est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a peut-être plus de doutes ou plus de certitudes sur les États-Unis, finalement, après tous ces efforts de la Réserve fédérale américaine? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur cette hausse de taux en 2015 ou est-ce qu'il y a encore des doutes là-dessus, justement, sur cette solidité de l'économie américaine?
Personnellement, moi, je n'ai pas vraiment de doute. Je pense que l'économie américaine est en bonne forme, qu'il faut vraiment aller au-delà de la volatilité des chiffres et même aller au-delà du débat de savoir si c'est bien mesuré ou mal mesuré. Regardons pas simplement le dernier trimestre ou les derniers mois, regardons la tendance, regardons en particulier l'amélioration des conditions d'emploi. Enfin, on est à un taux de chômage qu'on n'a pas connu depuis le mois de mai 2008. On se souvient ce que c'était que le mois de mai 2008, c'est-à-dire peu de temps après la faillite de Bernstein, peu de temps avant la faillite de Lehman. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente. Si j'avais à dire, si j'avais à formuler une critique à l'égard de la Banque centrale américaine, c'est de ne pas avoir monté ses taux il y a un an. Et elle aurait pu le faire si elle avait suivi sa propre, comme on dit dans le jargon des banques centrales, forward guidance. À un moment, elle avait fixé des seuils. Voilà, quand le chômage tombera sous tel seuil, alors ce sera le moment de monter les taux. Ces seuils ont été franchis il y a au moins un an. Ils auraient pu monter les taux à une époque où le dollar était moins fort qu'aujourd'hui, les valorisations des marchés étaient moins tendues qu'aujourd'hui, et où, par ailleurs, l'économie américaine était à l'aube quand même d'une assez nette accélération, là encore en mettant de côté un peu la volatilité d'un trimestre. Bon, ça n'a pas été fait, on ne va pas réécrire l'histoire, mais je veux dire, c'est qu'on aurait très bien pu avoir cet événement il y a un an. Aujourd'hui, on serait avec des taux des Fed Funds à 1% au lieu d'être à 0 ou 0,25. Et tout le monde s'en porterait beaucoup mieux. La vraie question, c'est qu'on voit bien, on est arrivé au terme d'un cycle monétaire, on est à l'aube d'un nouveau cycle monétaire, en tout cas celui qu'on va quitter bientôt, la politique est tout à fait exceptionnelle, et la transition est compliquée. Elle est compliquée parce qu'il n'y a pas de référentiel dans l'histoire, et que forcément, si on essaye de se mettre à la place de Mme Yellen et de ses collègues, prendre une décision, si jamais il y a une surréaction des marchés, de taux, d'actions, si l'économie, pour une raison qui se met à réfléchir, on lui imputera la faute.
Voilà, donc il faudra bien communiquer ce qui est le métier effectivement de la Réserve fédérale depuis des mois maintenant. Merci Bruno Cavalier d'avoir été avec nous.